Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous recevons dans les studios de la rue d'Assali, Svante Svantrom, poète franco-suédois, qui nous fait donc le plaisir de nous rejoindre dans ce studio pour nous parler d'abord de son œuvre poétique, de son activité poétique, mais également d'un événement qui va se dérouler très bientôt, puisque le jeudi 21 novembre, à la Maison de l'Occitanie, dans l'Oustal, 11 rue Malcousinat, à Toulouse, il suffit de prendre le métro Esquirol, s'arrêter à Esquirol, donc à côté de la place Esquirol, il y aura une soirée consacrée donc à ce poète Svante Svantrom, à 18h30 dans la salle Perbosc, Antonin Perbosc, qui est la salle du rez-de-chaussée en entrant dans la cour de la maison de l'Occitanie, de l'Oustal. Voilà. Alors, si tu le permets, Svante, je vais tout d'abord annoncer également un autre événement. C'est un des premiers hommages, il y en aura d'autres, hein, un hommage à Michel Baglin, qui nous a quittés donc cet été. D'une façon prématurée et, comment dirais-je, qui a laissé un vide immédiat et assez terrible. Michel Baglin, l'hommage lui sera rendu le 18 novembre à 20h30 à la Cave Poésie. Donc je vous invite évidemment à vous rendre à la Cave Poésie. Bien entendu, il y aura d'autres événements autour de ce poète qui a été un des poètes majeurs de Toulouse, donc depuis les années 70 à nos jours. Et je veux simplement lire peut-être un texte de Michel Baglin. C'est Michel Baglin avait l'habitude, il faisait du vélo. Et il avait l'habitude, quand il faisait du vélo, de s'arrêter à un moment donné et de m'appeler sur le portable. Alors il m'appelait chez moi, puisque moi j'ai pas de portable, et on discutait un petit peu. Et souvent, il était sur le bord du canal, c'est là qu'il faisait sa promenade à vélo. Et un jour, il a eu un accident d'ailleurs, il est tombé sur le bord du canal. Et c'était donc un habitué à ce canal. Moi, j'habite aussi près du canal et je fais du vélo aussi près du canal. Ça nous réunissait un petit peu. Et voilà ce qu'il dit aux écluses. Il y a toujours du monde aux écluses quand se présente un bateau. Des gens surgissent de nulle part, de derrière les platanes du chemin de halage, d'une ferme lointaine, d'un passage oublié, tombé de la lune peut-être ou descendu de vélo. Il y a toujours du monde aux écluses, des sentinelles penchées sur les remous, et on dirait qu'elles sont venues sous la voûte des arbres, saluées du fond des siècles avec le lent courant des biefs, dans la traîne des feuilles, les puissances de l'eau. Il y a toujours du monde aux écluses, des curieux, enjoués ou fascinés, le pied sur un bolard et les mains dans le dos, qui savent presque tout des mariniers, de la manœuvre et des ventelles. Donc, chaque tour de manivelle ouvre plus grande des sources dans les yeux. Il y a toujours du monde aux écluses, des amoureux, des canaux, des ponts, des ports, des épanchoirs, battant le pavé des bajoyers pour récupérer le bonjour avec la mare. Et regarder dans le sas s'enfoncer entre les parenthèses des portes, le voyage, un instant suspendu d'une autre vie rêvée. Voilà. C'est Nougaro qui disait à Serge Peille, toi tu es le poète de la Garonne, moi je suis le poète du canal. Et Michel Baglin a été à la fois le poète du canal, puisque il y a ce texte, et puis il était très souvent donc en vélo, et c'est un endroit qu'il aimait, qu'il connaissait bien. Et puis c'était aussi le poète de la Garonne, puisque sa maison donne sur la Garonne. Il était en contre-haut des rives de la Garonne. Michel Baglin, c'était extrait de Un présent qui s'absente aux éditions Bruno Doucet, le livre à lire, si vous ne l'avez pas, vous coûtera 15 euros. Et puis pour continuer ces annonces, alors ça c'est un événement, je rappelle la date, le 21 novembre, le 18 novembre, pardon. Michel Baglin, donc premier hommage à 20h30. Et puis je vais continuer par une femme poète, Marie-Josée Christien, qui publie une poésie, un livre de poèmes avec des encres d'André Guenoun aux éditions Almanach, Affolement du sens. C'est un très très joli livre, très joli livre. Nous aurons le plaisir, je pense, de consacrer une émission entière à Marie-Josée Christien pour l'ensemble de son œuvre et en particulier pour ce livre, L'affolement du sang. Je vous invite déjà à aller peut-être sur Internet voir les critiques de ce livre. Marie-Josée Christien, qui est une Bretonne, c'est une amie de Brigitte Gaillard et qui est née en 1957, qui vit et travaille donc en Bretagne, qui a publié de nombreux recueils et qui anime une revue, la revue Spéret Gouez. Ça va te plaire, Svante, puisque c'est en breton. Spéret Gouez, l'esprit sauvage, donc à voir aussi ici sur son site, Spéret Gouez, l'esprit sauvage, qu'elle a fondé à Carhaix en 1991. Le Grand Prix international de poésie francophone lui a été décerné en 2016 pour l'ensemble de son œuvre. Et André Guénon, pardon, excusez-moi, est né en 1949 en Algérie et il travaille, lui, à Paris. Donc c'est un peintre qui œuvre essentiellement sur les encres et sur toile ou papier. Voilà, donc j'aurai le plaisir de vous parler plus longuement de ce livre, L'affolement du sang. Il y a un avant-propos de Jean-François Mathé, qui est poète également, qui est tout à fait explicite sur. Et je vais vous lire simplement un très très court extrait pour ne pas. Je voulais simplement signaler cette publication qui fera l'objet donc d'une émission entière. L'heure présente titube dans mon effacement. Je sommeille au creuset de la vie. Un amour existe qui ne vient pas. Ses yeux ne me voient pas. Vous voyez, dans des poèmes très brefs, très concis, avec une économie d'adjectifs, on va vraiment à l'essentiel. Espèce de poésie squelettique, mais évidemment qui, du fait de ce dépouillement, cet élagage de tout ce qui pourrait être ornemental ou encombrant, donne toute sa puissance. Donc à lire vraiment, Affolement du sang de Marie-Josée Christien, mais nous en reparlerons donc plus largement. Et puis je voudrais saluer la table ronde pour le travail qu'il mène depuis longtemps, en particulier cette collection que j'affectionne particulièrement, qui est la collection des livres de poche. Alors, nous sommes en 2019, donc en 2019, on a signé le traité de Versailles, qui a conduit à une nouvelle guerre d'ailleurs, hein, à force de vouloir peut-être se venger sur la bête. On a fait reprendre des événements. Les éditions, donc la table ronde dans la collection, la petite collection de poche, ça ne s'appelle plus Les Vermillons, dans le temps c'était Vermillon, publie un ouvrage sur Maurice Genevoix. Alors Maurice Genevoix, c'est quand je me souviens d'être allé chez mon dentiste en 1970 avec un livre de Maurice Genevoix, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu lis, etc. Je lisais à l'époque Maurice Genevoix et Georges Duhamel. Bon, il faut lire ces auteurs qui ont quand même marqué la littérature, l'histoire de la littérature française. Maurice Genevoix, qui est né en 1890, qui est mort en 1980, qui avait fait l'école normale supérieure, hein, pour entrer dans la guerre immédiatement, et en août 1914, et qui a passé des mois très durs donc dans les secteurs les plus meurtriers du front. Il faut lire donc ce 30 000 jours de Maurice Genevoix, qui est republié en format de poche, donc il n'y a aucune raison de ne pas s'il est très, très agréable. Et C'est un livre qui est tout à fait abordable, il coûte 7,80 €. Mais également, c'est Michel Bernard qui publie aux mêmes éditions un livre sur Maurice Genevoix, et c'est très bien. Il dit, j'ai écrit ce livre sur Maurice Genevoix pour que l'on se souvienne du temps où les mots étaient du côté des choses. C'est assez terrible, je trouve, cette phrase. Le temps où les mots étaient du côté des choses. Ça veut dire que peut-être les mots, maintenant, on en parlera avec toi, hein, Zante, puisque les mots, quelle que soit la langue, ce sont des choses qui t'interpellent, mais des choses vivantes, tout à fait vivantes. Donc il faut lire ça. Pour Genevoix, ça s'appelle, c'est Michel Bernard, il y a des illustrations qui sont vraiment très bien aussi, 7,30 €. Ça a eu le prix Grand Témoin de la France mutualiste en 2013 et le prix littéraire Lorrain-Georges Sadler de l'Académie de Stanislas la même année en 2013. Michel Bernard qui a publié donc à la table ronde La maison du docteur Laheuer en 2019 qui a eu justement le prix Maurice Genevoix. Voilà, donc à lire, vous trouverez ses coordonnées sur notre site, lespoètes.site. Voilà, alors, Svante. Alors, tu es à Toulouse, Svante, depuis
Ça fait deux
maintenant
ans, un peu plus
deux
de
ans,
deux ans,
deux
oui.
ans.
Ah oui.
Je dirais que tu n'as pas perdu de temps.
C'est
Bon.
vrai, oui.
Puisque, donc, en 2 ans, passionné de poésie, tu as voulu immédiatement, tu venais de Paris,
Oui.
où tu connaissais le milieu
De la
de la
poésie, oui.
poésie, bon. Et tu as voulu, en arrivant à Toulouse, retrouver également ce milieu de la poésie, mais
Oui.
également, alors ça c'est une démarche qui est, comment dirais-je, tout à fait intéressante, passionnante et réconfortante, tu as voulu également te mettre à l'occitan.
Oui.
Voilà. Donc, ce n'était pas simplement habiter Toulouse, c'est vraiment habiter en poète à Toulouse, dans la culture occitane qui est la culture de Toulouse.
Oui. Alors c'est vrai que en arrivant à Toulouse, ça me paraissait assez naturel, vu mon intérêt général pour les langues dans l'absolu. Mais en fait, ma fille habite dans la région depuis 2001-2002, de sorte que elle habitait la Guépie
Ah bon.
pendant un certain nombre d'années. Donc à une de mes premières visites, quand j'ai découvert l'Occitanie et le pays occitan et la nature occitane. C'était concomitant avec l'université occitane
Oui,
à la
de
Guépie.
Claude Sic.
Alors, c'était
Hein?
même
Ah
avant,
non,
c'était
ah c'était
avant Claude
avant,
Sic,
c'était
oui,
avant.
tout à fait.
Oui, d'accord.
Et donc, ma fille me dit, mais toi, papa qui aime bien les langues, pourquoi tu t'inscris
Oui,
pas à
oui, oui,
l'université?
oui,
Bon, on était en 2001, 2001, 2002. Non, non, pardon, là, on
oui.
était en 2012, je pense. Et je dis, bouf, 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 j'avais pas de projet de venir à Toulouse, hein, de venir m'installer. Je l'ai fait quand même, parce que, bon, après tout. Et puis, j'ai été mordu. Maintenant, j'apprends pas vite. Je suis toujours en train d'apprendre, mais je peux faire la petite conversation, hein, en occitan, oui.
Et tu peux le lire surtout, non?
Je peux lire et
Oui.
j'ai même essayé d'écrire, bien sûr, sous le contrôle donc de vrais locuteurs d'occitan. Mais ce qui m'est difficile, c'est d'entendre. Je peux
Ah oui.
m'exprimer, je peux réfléchir,
Oui.
mais quand les gens parlent, ça va souvent trop vite pour
Oui,
moi.
oui. C'est plus facile, la lecture est plus facile.
Ah, oui, tout à fait.
Oui,
Oui, je comprends assez bien.
oui,
Hein.
oui,
Je lis des romans,
oui.
des articles comme ça,
Oui,
oui.
la poésie.
La poésie aussi.
Oui.
C'est un peu plus ardu, mais oui, si. Joan Boudou, par
Oui,
exemple.
oui, oui. Oui. Et la poésie contemporaine avec Franck Bardoux, etc.
Voilà.
Oui,
Donc enfin,
oui.
je découvre
Oui,
les poètes
oui.
occitans. J'ai depuis longtemps l'anthologie dans les éditions Séguère, hein, sur la
Ah oui.
poésie occitane. C'est René Nelly qui l'avait faite, si je me
Alors,
souviens
oui,
bien.
c'était la première anthologie. Il faut s'en méfier un peu.
Ah bon?
Oui, parce que, par exemple, il met dans cette anthologie Michel Cozem, mais en réalité, Michel Cozem n'a jamais écrit en occitan. C'est Nelly qui a traduit en occitan les
D'accord.
textes, les poèmes de Michel Cozem, qu'il aimait beaucoup. D'ailleurs, il avait compris que Michel Cozem était un poète qui allait conter et
Mmh.
qui était un poète authentique. Et donc, il a voulu le mettre dans son anthologie de la poésie occitane. Voilà. Et actuellement, bon, il y a les éditions Trobavox, qui sont animées par Gérard Zucchetto, où on peut trouver quand même les grands poètes occitans. Là, il y a un effort extraordinaire. Zucchetto qui a fait une véritable, comment dirais-je, la Bible des poètes des troubadours, hein, puisque c'est certainement le plus grand connaisseur de la poésie médiévale, donc des troubadours, et qui vient de publier il y a un an de ça à peu près, un très gros livre. Hein. Donc là, il n'y avait que Nelly qui avait effectivement entrepris ce travail il y a longtemps, mais Zucchetto l'a totalement complété, l'a abondé vraiment d'une façon considérable. Alors, Zante, tu as publié à ce jour deux livres,
Trois
trois
livres,
livres.
oui.
Alors, donc tu as publié Languet en 2003.
Oui.
Opus, ah oui, pardon, deux livres, plus le dernier, bien sûr, et Hocus Corpus en 2009, et puis Navigateur au sommet du vide, dont nous allons parler essentiellement tout à l'heure. Donc tu es suédois et français.
Je suis suédois d'origine, et puis en France depuis bon, maintenant 40 ans, enfin 7 tranches, j'ai vécu la majeure partie de ma vie en France, mais par tranche, si on peut dire. Je suis né à Paris, j'ai vécu mes premières 7 années à Paris. Mais donc, voilà, 40 ans de vie parisienne, et puis là, en 2017, donc, on arrive à Toulouse, tous les deux libérés donc, de responsabilités professionnelles, et puis ayant donc une petite famille à Toulouse. Hein.
Ça, c'est le choix de Toulouse, c'est dû à la guépie aussi, à ce.
Ben, c'est-à-dire que ma fille a
Oui.
bougé depuis, et donc
Ah, elle est
sa
à
famille
Toulouse?
est à Toulouse.
Ah, d'accord.
Et donc, du coup,
Donc, oui.
comme il y avait des petites maintenant aussi, donc
Oui, oui,
c'était
oui.
assez naturel.
Oui,
Et puis,
oui.
on avait découvert Toulouse, et puis on
Oui.
avait apprécié Toulouse.
Oui.
Donc, c'était
Oui.
un déplacement agréable, hein.
Oui. Oui.
Ouais. Rien que pour la ville même.
Oui. Et 2 ans après, on peut dire
Oui.
que tu es content de ce
Ah,
choix?
tout à fait, oui. Tout à fait,
D'accord.
oui.
Tu regrettes pas la vie parisienne?
Non, 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 curieusement, parce que
Oui,
moi j'aime bien les grandes villes, en général,
oui,
les
oui,
mégapoles, j'aime
oui,
bien,
oui,
mais là, donc, bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein.
oui,
Bon, après, il y a tout ce qui est magnifique, mais j'ai connu tout ça, donc ça ne me manque pas. Hein.
Et tu penses qu'il y a un art de vivre qui te convient ici à Toulouse?
Ah, on découvre, il y a des choses un peu étranges. Hein.
Oui, ça.
L'amabilité des
Oui.
personnes, aussi bien des adultes. Des adultes que des jeunes, hein. On le voit notamment dans la culture des transports en commun. Hein. Et puis sinon, là, dans les magasins, tout ça, ce qui est évidemment très différent de la vie parisienne, enfin de ce qu'on peut connaître, ce que je connais de la vie parisienne. Et en même temps, ben, on constate que ben, les gens s'entretuent quand même à Toulouse
Oui,
aussi. Hein.
oui, oui.
Donc il y a une espèce de grande courtoisie d'un côté, mais qui est couplée au moins marginalement, avec une
Oui, oui,
brutalité, une
oui,
violence qui ne disparaît pas, quoi.
oui. Oui. C'est une ville de faits divers, oui,
Voilà,
qui
ouais.
sont assez tragiques et où il y a une violence quand même. Oui.
Ouais.
Mais bon, qui est peut-être aussi le fait de maintenant un peu généralisé. Oui, oui. Donc, quand on regarde l'histoire de Toulouse, il faut pas se leurrer quand même. Hein. Il y a eu des périodes d'histoire très violentes. Les
Bien
guerres de
entendu.
religion ont été
Bien
des
entendu,
guerres terribles à
bien
Toulouse.
entendu.
L'affaire Calas, c'est pas ailleurs qu'à Toulouse. Hein. Hein.
Oui, il n'y a pas que ça d'ailleurs.
Et il n'y a pas que ça, oui. Il n'y a pas que ça. Vanini, brûlé, la langue arrachée, etc. Voilà. L'épisode de la guerre aussi, la résistance et la milice. Hein. Donc oui, c'est une ville de contraste, ça, c'est sûr, c'est sûr. Alors, tu t'intéresses donc à la poésie. On dit que là, sur la quatrième de couverture de ton dernier livre, Navigateur au sommet du vide, paru chez L'Harmattan, on dit, il tend chaque fois une loupe dépaysante sur les mouvements de la terre et des hommes.
Oui.
Il développe une expérimentation poétique unique autour des langues du monde. Voilà.
Oui.
Voilà. Alors, je pense que tu vas te retrouver très bien avec Claude Sicre.
Oui.
Hein?
Effectivement.
Voilà,
Oui,
Claude
il se
Sicre.
trouve que je fais
Oui.
partie du conseil
Oui.
d'administration
Voilà.
du Carrefour culturel Arnaud Bernard, donc présidé par Claude Sicre, effectivement.
qui est aussi dans cette mouvance de rassembler
Exactement, exactement.
et de faire en sorte
Oui,
que
aussi.
l'ensemble des langues, il n'y a pas de langue plus belle que d'autres. Donc toutes les langues
Un pied d'égalité, oui.
sont sur un pied
Tout à fait.
d'égalité et toutes les langues doivent fraterniser.
Tout à fait.
Donc là, tu as trouvé là véritablement. Et par atelier, j'ai compris également que tu avais été pas mal bourlingué.
Oui,
Oui,
oui, oui, oui.
oui. Je connais des gens qui voyagent beaucoup, mais qui voyagent pour leurs affaires, etc., qui n'ont pas trop le temps. Et en définitive, ils reconstituent là où ils sont, un mode de vie à peu près identique. Bon, à te lire, on voit vraiment qu'il y a ce souci d'aller un peu plus au fond des choses et de voir justement cette différence d'un peuple à l'autre, d'une langue à l'autre, et en même temps cette différence qui se conjugue dans une universalité.
Alors, j'ai quelques approches un peu différentes. Et je dois dire d'emblée, donc, dans les trois livres que j'ai faits, je cultive l'hétérogénéité d'une part et d'autre part l'éclectisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu informel ou tacite qui veut que, un livre de poésie soit quelque chose d'homogène, des choses qu'on retrouve, une continuité. J'ai rien à dire à cela, mais c'est pas mon truc. Moi, je trouve que, alors, ce sont aussi mes impressions des choses qui m'ont façonné quand j'étais plus jeune, qui m'ont porté justement à faire des choses variées et à cultiver la surprise. Bon, la surprise n'est pas forcément quelque chose qui est prisé, peut-être dans le en tant qu'élément d'un recueil de poésie, je l'ai expérimenté d'ailleurs. Hein. Donc, il y en a qui trouvent que effectivement, ça, c'est un peu trop éclaté. Hein. Mais donc, je le revendique. Et donc, les approches donc, que je pratique, c'est d'une part, tu as évoqué les voyages, les pays. Donc, j'écris sur des sujets multiples. Mais quelque chose que j'aime bien, c'est quand je voyage, c'est de décrire des paysages, qu'ils soient d'ailleurs paysages ruraux, que ce soit la mer, la montagne ou la ville, hein, les paysages urbains aussi. Et donc de décrire ces paysages sous les traits de l'anatomie humaine. Donc il y a des métaphores comme ça sur l'anatomie humaine. Donc bien sûr c'est un peu fantasmé et en même temps je dirais semi-plausible, c'est évidemment pas du plausible, mais je fais quelque chose, il y a quelque chose de continu, un contexte, et qui, donc, je me complais à considérer comme semi-plausible. Deuxième approche, et les choses peuvent se mélanger et les approches peuvent se croiser, évidemment, c'est j'écris en français et en suédois. Donc, je me suis traduit dans les deux sens. Et un jour, je me suis dit, mais il y a quelque chose d'intéressant à faire, ou à tenter quand même. C'est le fait que la langue suédoise a importé, si on peut dire, hein, donc importé ou emprunté, quelques milliers de langues à la langue, de mots à la langue française, dont 16e, 18, enfin, 17e et 18e siècle. Donc il y a tout un corpus comme ça, qui souvent veulent dire la même chose, qui d'autre part ont été un peu déviés, pris un sens autre, ou bien qui se disent un peu différemment. Si je prends le mot suédois argotique, mojäng, un mojäng, ce sera en français un bidule, un truc. Alors qu'évidemment, c'est le mot moyen qui est à l'origine. Donc, il y a tout ça. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ce registre-là? Et donc, j'ai effectivement écrit quelques textes. C'est assez difficile parce que le corpus est réduit, d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas des mots qui sont très très poétiques, parce qu'il y a beaucoup de mots donc, venant du français, c'est des mots qui se terminent en ité ou en sion ou age, et donc à répétition, répétition. Mais enfin, on arrive quand même, donc j'ai fait quelques textes et on en voit notamment dans le livre dont on parle. Et la troisième approche, c'est, j'ai découvert à un moment donné des guides de conversation pour le voyage. Donc, dans une librairie, je voyais le guide de conversation tibétaine, nahuatl, le philippin, enfin, tagalog, ou tagalog, on dit, je crois, indonésien, etc., ou quechua en Amérique du Sud, de guarani. Je feuillette, et puis il y a des mots, enfin, il y a des choses fascinantes, notamment ce qu'on appelle les faux amis. Donc, des mots qui s'écrivent, comme des mots français, par exemple. Je me dis, mais il y a des choses à faire. Donc, je travaille dessus depuis un certain nombre d'années, à écrire donc des textes que j'appelle, donc c'est une écriture que j'ai inventée, que j'appelle une universification, et donc composée de trois éléments. D'une part, le premier élément, c'est donc une succession de mots étrangers, en langue étrangère. Deuxième partie, ce sont tous ces mots en langue étrangère qui sont traduits en français dans le même ordre, donc strictement symétrique. Et la troisième partie, c'est l'énoncé des langues de provenance, également dans le même ordre, donc strictement symétrique. Et de telle sorte que, en lisant un texte de cette nature, c'est comme si si on a la patience de le lire, parce qu'il faut accepter de lire un peu en zigzag pour voir la traduction, puis d'où ça vient, etc. Tout ça. Donc des textes courts, hein, naturellement, ça s'impose de faire des textes courts. Mais du coup, on peut faire un voyage autour du monde, et puis ça ouvre, je pense, des horizons pour le lecteur et pour moi-même. Donc quand je compose tout ça, quand je conçois tout ça, c'est un vertige. Enfin, c'est souvent très difficile. Je me suis imposé un certain nombre de règles, un peu. Je ne suis pas dans la mouvance oulipo, mais je me suis imposé des contraintes quand même qui se rapprochent de contraintes oulipiennes pour ne pas faire. Parce que il serait facile de faire des choses un peu gratuites ou un peu, comment dire, arbitraires, quoi. Je choisis, quand j'ai un corpus de mots, je ne vais pas prendre le premier à droite, etc., mais, ou le premier devant moi, mais donc je cherche à établir une logique entre les mots étrangers, et qui, évidemment que je les comprends, si je les comprends tous parce que j'ai des instruments, mais je ne maîtrise pas la prononciation. Donc je fais un pari sur des rythmes, sur des accents, et tout ça, et donc des mots qui n'ont rien à voir ensemble a priori, je crée ce qui pourrait être, je l'espère, hein, une sorte de, comment dirais-je, un contexte unifiant, phonétique ou rythmique. Voilà. Et donc tout ça, ça permet, donc c'est une grande expérimentation, et ça permet des choses très intéressantes. Notamment, j'ai fait dans un de mes livres, je fais parler les animaux avec des mots étrangers qui s'écrivent, qui au mieux aussi se prononcent comme les sons des animaux, le miaou des chats, le wa-wa-wa du chien, etc., le cocorico. Et donc, j'ai fait parler les animaux, les insectes, j'ai fait parler des insectes. Et je fais aussi en sorte que le poème devient musique. On dit bien souvent, c'est une espèce de quelque chose d'assez banal de dire que la musicalité, la musique du poème et tout ça, j'adhère pas vraiment à ce discours-là, je trouve que c'est un peu facile. C'est un peu comme si, quand nous parlons là, c'est pas de la musique. Et quand je lis un poème, c'est pas plus de la musique. En fait, c'est du son parlé, qui évidemment a toutes ses justifications, mais ce n'est pas de la musique. Alors qu'avec l'universification, je peux constituer un corpus de mots de langue étrangère qui s'écrivent comme les notes du solfège. Et donc, disposant ainsi des énoncés de notes de solfège, je peux créer des lignes musicales. Ça n'a pas de grand intérêt de composer moi-même des lignes musicales. Par contre, c'est intéressant, et c'est ce que j'ai fait, de prendre des mélodies connues, oui. Donc, j'ai fait quelque chose sur une séquence de la Marseillaise, par exemple, les notes de la Marseillaise. Tout en sachant que les notes, donc, enfin, les mots qui s'écrivent comme des notes, ils veulent dire des choses autres dans des langues qui sont présentes dans le texte. Et donc, ça fait un texte en français qui est évidemment très différent de texte de la Marseillaise, par exemple. J'ai fait quelque chose sur le Toréador de Carmen, etc. J'ai fait quelque chose aussi sur l'hymne occitan, c'est Canto. Donc là aussi, j'ai une séquence comme ça qui est. Voilà. Donc, ça donne une grande possibilité d'expérimentation.
Alors on voit une originalité totale, hein. Là je pense que les auditeurs seront peut-être un peu perdus d'entendre ça, mais ce que tu viens de dire est très important pour ceux qui vont venir à la
Oui.
Maison de l'Occitanie donc le jeudi 21 novembre à 18h30, parce que ce que tu viens d'énoncer, ils vont l'écouter, ils vont l'entendre. Et par exemple, celui
Oui.
sur la Marseillaise, etc., ils vont l'entendre. Et avec cette explication, effectivement, on est sensibilisé et il n'y a pas cet effet un peu de sidération que l'on a eu, par exemple, la première fois qu'on a écouté ce texte, hein, de toi. Et, mais avec cette explication, effectivement, on comprend la démarche. C'est une posture qui est très, comment dirais-je, qui paraît, qui rentre
Quand j'ai fait des lectures, effectivement, il est indispensable que je dise quelques mots pour expliquer ce que c'est, parce que sinon c'est complètement déroutant, évidemment.
Et en même temps, c'est plutôt rare maintenant d'avoir aussi, comment dirais-je, une poésie qui va qui expérimente une voie assez nouvelle, qui à la fois tient un peu, c'est vrai, de l'Oulipo, hein, au moins pour la contrainte, hein, il y a une certaine contrainte quand même dans ces textes, mais qui innove.
Alors, il y a une particularité, je ne suis pas le seul à écrire des textes avec des mots étrangers, hein, en bilingue ou trilingue, ça existe. Mais la difficulté est, comment dirais-je, un peu le leurre des livres bilingues, parce que moi j'adore ça, j'achète très volontiers des livres bilingues, mais dans un sens, c'est un leurre, parce que quand vous avez d'un côté la langue étrangère, l'autre côté, la traduction en français, ben, comme les syntaxes sont pas forcément les mêmes, et donc l'ordre des mots n'est pas les mêmes, donc on peut être sûr de rien, on ne peut rien vraiment comparer. Vous prenez le suédois, donc c'est quand même assez proche, mais enfin, parfois il y a une inversion dans les phrases. Vous prenez une langue comme le turc, là qui est radicalement différent, donc il n'y a aucun moyen, bon, c'est sympa de voir le truc bilingue, mais je veux dire, on n'est pas vraiment aidé. Alors que, avec ce que je fais, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est la transparence est totale. Vous avez la symétrie avec la traduction des mots, et vous avez la symétrie avec donc les langues utilisées. Et je fais évidemment, je m'impose des contraintes d'une part, des libertés d'autre part. Et la liberté que je me donne, c'est que j'applique aux langues que j'utilise dans ces textes la syntaxe française. Donc, les mots se suivent comme si c'était dans des phrases françaises, sans quoi, évidemment, la chose ne peut pas exister, hein. Et donc, ça, bon, ça n'existe pas, je veux dire. Alors voilà, dans aucun autre contexte, que je connais en tout cas, le lecteur peut tout vérifier, en quelque sorte, hein.
Je vais te demander, puisque le temps s'écoule, de bien vouloir nous donner donc des exemples de ça, donc nous lire des extraits donc de tes livres, en indiquant évidemment de quel livre il s'agit.
Alors, je pense que c'est dans le deuxième livre qui s'appelle que j'appelle Hocus Corpus, donc Hocus Corpus, comme tu as dit. Hein. J'aime bien un texte que j'ai écrit donc pour faire parler les animaux. Et donc, comme je disais, donc ça commence par des mots en langue étrangère. Ensuite, vous avez la traduction en français. Et en fin de compte, sur la page, vous avez l'énoncé des langues présentes. Quand je lis ça, quand je fais de lecture, je fais plutôt la démarche inverse. C'est-à-dire que je dis quelles sont les langues présentes dans le texte. Et après, donc, je procède. Ici, dans le cas présent, donc, il s'agit de parler avec les insectes. Un texte en 15 mots. Et donc 15 langues qui sont le slovaque, l'arménien, le polonais, le letton, le koun, le mongol et le croate, l'occitan, le suédois, le gascon, le letton, l'allemand, breton, espagnol et nahuatl. Et donc voici comment parlent donc les insectes, comment ils pourraient parler, disons plutôt. Bzz, bzdig, bzdurstvo, aistit, setsrleg, smrznut, suzlus, lutzelts, ist krise, i zekwitzli. En français, rapide, petite bêtise, derrière un jardin congelé. Sur la punaise, la lumière de l'or est crue et froide. Donc voilà un exemple de l'expérimentation qu'on peut faire. J'ai évoqué tout à l'heure la façon dont on peut faire de la musique. Et donc, j'ai écrit un texte que j'appelle Haute Montagne. Évidemment, ça doit résonner puisque beaucoup des lecteurs ou des auditeurs de l'émission connaissent bien sûr Aqueros Montaños. Et donc, et encore une fois, donc les langues qui figurent, qui sont présentes dans ce texte sont baolé, tsonga, tahitien, vietnamien, hunanais, gan, hongrois, l'italien, le vietnamien, le fuzhou, le tibétain et le persan. Et donc, déjà, on peut le dire de façon parlée, hein, les notes donc des solfèges sont do, fa, fa, la, so, fa, 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 so, la, sol. Donc là, je ne le dis pas vraiment en rythme. Ça veut dire en français, l'heure du départ de la vallée d'eau pure rétrécit. Les fleurs, les arbres font d'un coquillage en cire un col de montagne de paix. Maintenant, je dis que ceci est de la musique. Et donc, avec la pauvre voix que j'ai, donc je vais essayer de vous chanter ceci. Do, fa, fa, la, so, fa, 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 sol, la, sol. C'est forcément des extraits courts, parce que les corpus que je peux constituer avec des notes de solfège, c'est assez réduit. Donc, si je fais des choses plus longues, ça m'oblige à faire des répétitions, ce que je vais évidemment éviter. Mais donc, voilà pour dire que là, je suis en mesure de dire que je fais véritablement des poèmes qui sont de la musique. Au-delà donc du discours habituel qu'on connaît sur la musicalité de la poésie.
Voilà du cliché du père musical,
Voilà.
la sonorité, par la sonorité des mots, c'est une véritable fabrication musicale.
Tout à
Voilà,
fait,
ça
tout à
se
fait.
fabrique. Voilà. Alors tout ça, vous l'avez bien compris, est particulièrement original. Et cette soirée de Loustal, là, jeudi 21 novembre, donc ces textes seront dits par Claude Barrère, que nous connaissons. Non, pardon.
Non, il y a Francis.
Oui, Francis Pornon, pardon. Excusez-moi. Francis Pornon,
Oui. Toi-même.
moi-même,
Et
et
Béatrice
Béatrice Arias,
Arias.
donc, qui est une comédienne avec un accompagnement musical, puisque
Oui.
la musique sera importante, évidemment,
Oui,
dans
donc il y aura
cette
Vincent
soirée.
Legout qui va
Vincent
faire la
Legault,
musique avec nous. Oui.
voilà. On va, si tu veux bien, finir cette émission sur la lecture de tes textes.
Alors, un texte peut-être sur la région d'où je viens. Comme je disais tout à l'heure, hein, j'aime bien écrire des choses sur la nature, le paysage, donc, et en forme d'anatomie humaine. Donc voici un exemple. Donc c'est sur la Baltique, la mer Baltique. J'ai grandi au bord de la mer Baltique. Et cette mer est entourée de 9 nations. Et on verra pourquoi je dis ça tout à l'heure. Dans le froid, la mer redevient vierge. Ses fruits sont à nouveau inexpugnables. Mais contre des étraves d'acier, son innocence se perd fatalement, encore Et encore. L'hymen de l'hiver se lézarde en chenaux pour humains, et bientôt se dissout la membrane entre côtes consentantes. La houle estivale frise son giron et, dans son intimité, fouille le chalut des marins. La mer se donne au peuple. On a le temps pour encore un. Alors, Ah oui. J'ai participé en 2008, je crois, au deuxième Festival international de poésie à Paris. Et j'avais écrit pour cette occasion un texte sur, comment dire, pour accueillir, un texte d'accueil pour les amis qui venaient, donc des différents pays du monde, hein, parce qu'en fait, on venait de l'ensemble du globe. Le festival de poésie était pas très grand en soi, donc, mais des personnes avaient quand même traversé les océans pour venir nous rejoindre à Paris. Donc, je suis un peu embêté pour trouver le texte. Voilà. Et donc, c'est un texte fraternel. Et du coup, j'appelle les frères en plusieurs langues. Donc, vous allez voir. Et donc, les langues dans lesquelles je nomme les frères sont l'anglais, le suédois, le swahili, le maltais et le russe, et également des frères tadjiks, norvégiens, pochtous et romanches. Frère. Brother. Broder. Ndougou. Hou. Brat. Frère. Les roches voguent sur de vagues océans et les années traînent par centaines de millions, dont cinq avec hominidés, errant avec les plaques entre flots et coulées de lave. Nous avons troqué nos femmes, nous nous sommes fait face en armes et nous nous sommes anéantis. En sincérité, messagers de profession d'amour, oubliant que nous savons la précieuse pépite d'or qu'est la vie en ses plus reculées implantations, la prouesse d'orfèvrerie que sont les hommes. Entre flots de larmes et coulées d'adrénaline, nous voici maintenant, jubilants, venus à la rencontre, impatients, doublant la marche des continents. Les bras de mer qui s'ouvrent sont aussi les nôtres, tous tendus vers vous. Ocres odorants des terres de lavande, comme les vôtres, nous attendent de ciel saphir à la vanille, aux éclats de nacre dans les stratocumulus. Dans les ultimes interstices cardinaux, s'insinuent nos appels à la fête. Barodar, Brouvre, Frour, Frar, frère.
Très beau poème. Donc sur la fraternité, c'était un thème qui avait été évoqué d'ailleurs la semaine dernière avec Jacques Louvet aussi, avec sa chanson qui a eu le prix de l'Académie des Jeux Floraux, une médaille de l'Académie des Jeux Floraux pour la chanson poétique qui s'appelait Outre Frères. C'est Jean Follain qui dit que dans le poème, il le disait, je crois, bon, peu importe. Mais il disait que le tragique, on pouvait trouver chez le poète le tragique le plus actuel, dit-il, cette fraternité avec le ravage qui est notre lot. Il y a aussi cette notion, c'est-à-dire que nous sommes tous devant le même devenir du monde. Et donc, oui, la même finitude du monde. Et en définitive, ce ravage, ce que Jean Follain appelle le ravage, ça peut être aussi ce qui va nous rapprocher, puisque nous le partageons tous. Quoi que nous disions, quoi que nous fassions, nous allons être confrontés aussi à cela.
C'est sans doute vrai et en même temps pas si vrai que ça, mais bien sûr que
Oui.
on est forcément unis, mais sans forcément unis, je pense, mais sans forcément nous sentir unis, après tout.
Oui.
Hein? Bon, voilà,
Oui.
mais
Mais...
tout ça, espèce de flou diffus autour de ça. Mais bien
Oui.
sûr, j'adhère à ce que tu dis.
Mais il disait que le poète garde ce sens profond de la splendeur du monde. Et à te lire, à t'écouter, on sent quand même ça aussi, ce sens profond de la splendeur
Oui,
du monde, hein, de notre
oui.
monde, qui allie si pathétiquement l'épaisseur et la fragilité.
Oui, c'est moi, c'est vrai que ce que je souhaite faire, enfin, je suis un éternel émerveillé, si on peut dire, hein, qui découvre, qui aime découvrir, et qui cherche à découvrir aussi. Hein, donc, et puis, souvent, je trouve, effectivement. Donc, tout ça, y a quelque chose de merveilleux qui est très agréable à décrire. À décrire. Après, il y a tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas merveilleux, mais qui n'est pas forcément ce dont j'ai envie d'écrire. Il y a d'autres poètes qui se
Oui,
concentrent
oui,
sur d'autres
oui.
aspects de la réalité. Moi, c'est donc le merveilleux. Et comme je disais tout à l'heure, un peu enfin, un peu beaucoup d'ailleurs, hein, la surprise. Et je dirais par rapport au lecteur. Moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est la description qu'a faite Sainte Thérèse de l'ange qui la transperce. Et donc,
Intéressant.
c'est un très beau texte. Et donc, l'ange qui donc, la transperce de sa lance. Et donc, il y a une extase orgiaque, mais
Oui,
sans être,
oui,
bien sûr,
oui, oui,
sensuelle. Hein.
oui, oui,
Et moi,
oui.
j'aimerais bien, enfin, mon espoir serait que les textes que mes lecteurs lisent soient reçus comme des coups de poignard de délices dans leur corps.
Une très bonne conclusion. Donc, Zwantrum, donc poète du merveilleux, hein, de l'éblouissement du monde quand
Oui,
même.
oui.
De la surprise, donc c'est-à-dire être saisi de surprise, c'est important. Une vie où il n'y aurait pas ce saisissement de quelque chose qui nous surprend, qui
Il y a le poète,
serait dur à
ouais.
vivre, je crois.
Il y a le poète Maurice Coquiot, qui parle, donc d'une part dans ses poèmes, c'est évident, mais qui a écrit des livres aussi, donc de réflexion, sur l'étonnement.
Oui.
Et moi, j'adhère tout à
Oui,
fait
oui,
hein,
oui,
dans
oui.
cette.
Voilà, et poète de l'étonnement.
Voilà,
Je
voilà.
crois que c'est bien. Il nous reste juste peut-être une petite minute. Est-ce que tu ne pourrais, s'il te plaît, je voudrais bien que tu lises de Navigateur au sommet du vide, ce poème sur Cordoba. Voilà.
C'est quelle page déjà?
35, page 35.
35,
Voilà.
oui.
En honneur de tout.
Ce merveilleux.
Voilà, Cordoue.
Et ce merveilleux bâtiment
Que j'aime
avec
tant.
ce bijou à
Voilà.
l'intérieur. 35, tu dis. Córdoba. Sous les pierres de la grande planche à laver, entre les milliers de pieds en marbre, le détergent des âmes fut la prière. Siècle après siècle, dans la mesquita. Le combat des dieux achevé, après la Reconquista, une évangélique démangeaison fit érupter dans les entrailles du sanctuaire une pustule catholique de splendeur, une nef de grâce pesante. Depuis, dans la pénombre de la béatitude, parmi les troncs pétrifiés du prophète s'ouvre une clairière de lumière, le patio du Père cruel qui pardonne.
Voilà, magnifique poème en tout cas, moi qui me parle beaucoup. Ainsi s'achève notre émission. Donc on vous invite à venir à cette soirée, d'abord le 18 novembre bien sûr, pour la soirée Baglin à la cave Poésie à 20h30. Et puis le jeudi, ça c'est le lundi, et puis le jeudi de la même semaine, hein, le jeudi 21 novembre à 18h30, 18h30, à venir écouter Zwantrum. Donc cette poésie du merveilleux, de l'étonnement et puis de la fraternité par les langues. Merci beaucoup, Svante, et à très bientôt lors de la publication certainement de ton prochain ouvrage. Nous serons très heureux de t'accueillir ici à Radio Occitanie.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adicias.